Je vous invite à suivre la conférence de presse des Nations Unies avec Mathias Gilman à la présentation. Je vous rappelle qu'il est porte-parole de la mission onusienne.
Le soutien aux initiatives et mécanismes locaux de résolution des conflits et l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, dont la stratégie nationale a été validée par le président Tshisekedi, vous le savez, au début du mois. Il est essentiel que toutes ces actions soient appuyées par des efforts et une coopération régionale pour la paix, a aussi insisté la représentante spéciale. En outre, Bintou Keïta sera la semaine prochaine à Berlin pour une réunion de haut niveau à l'invitation du gouvernement allemand sur la stratégie de mise en œuvre de l'initiative Action pour le maintien de la paix, une stratégie connue sous l'acronyme A4P+, en anglais A4P+, accompagnée du commandant de la force de la MONUSCO, le général Marcos Afonso da Costa. Madame Keïta participera à un ensemble de discussions avec les dirigeants du maintien de la paix dans le monde sur l'engagement politique pour la résolution des conflits, les opérations ainsi que les questions autour de la sécurité des casques bleus. La réunion va aussi aborder les nouvelles menaces comme les engins explosifs improvisés. Je voulais aussi vous signaler que à Goma, depuis hier, mardi, un atelier d'échange de 3 jours sur le thème « Comprendre et combattre la désinformation sur les médias sociaux » est organisé. Un atelier qui réunit des représentants des différents secteurs de l'information publique, des affaires politiques, des affaires civiles, des droits de l'homme et de la section genre. Tout ça pour mieux cerner les modalités des campagnes de désinformation en ligne et également identifier les meilleures pistes de réponse face à ces discours hostiles. Il y a également une formation toute cette semaine en collaboration avec l'Université libre des pays de Grand Lac, des séances de discussion qui ont lieu à Rutshuru pour recueillir les perceptions et les points de vue des populations locales sur la contribution de la MONUSCO au processus de sécurité, de consolidation de la paix et de stabilisation au Nord Kivu. Je vais m'en tenir là et donner la parole à mon collègue militaire. Aujourd'hui, c'est le major Abdouli Bariou Alao Salou qui va nous faire un point sur la situation militaire. C'est à vous.
Merci, monsieur Mathias. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole et vous faire donc le point. L'actualité de la force MONUSCO. Je voudrais faire appel donc du mandat donc de la force. Il s'agit donc de protéger les civils et de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours des deux dernières semaines, la force a mené des actions vigoureuses sur l'ensemble de sa zone de responsabilité en vue de neutraliser les milices ou groupes armés, leur interdire la liberté d'action et de mouvement, et surtout d'assurer la protection des civils. Quelques points saillants méritent donc d'être relevés ici. À la suite de l'opération de bouclage de Bali en Ituri, le 5 avril 2022, au cours de laquelle 5 militants de la CODECO ont été neutralisés et 9 autres blessés, opération dans laquelle un casque bleu de la MONUSCO a été tué, des casques bleus bangladais, népalais et cette opération a été couronnée de succès. Des armes légères, des munitions, des talkie-walkies, c'est-à-dire des appareils émetteurs, récepteurs de communication, des motos et autres ont été saisis. Les éléments restants de la CODECO ont fui leur camp. Ensuite, à Béni, la sécurité reste préoccupante, mais la force de la MONUSCO, en coordination avec les FARDC, entreprend une action décisive contre les ADF. Le 18 avril dernier, au cours d'activités opérationnelles en cours à Pinzili, les castes bleus malawites et les ça a baissé, ont réussi à appréhender trois éléments présumés des ADF qui actuellement sont entre les mains des FARDC. Au nord Kivu, la situation sécuritaire est restée instable au cours de la semaine écoulée. Toutefois, on note une légère amélioration et des déplacés rentrent à présent chez eux. Et cela se note particulièrement dans les localités de Ivo, Tchengerero, Bunagana, excusez, et Kabino. La force poursuit ses efforts pour assurer donc la protection de ses déplacés. Aussi, la force de la MONUSCO a-t-elle lancé, hier mardi 19 avril 2022, une offensive contre le bastion des militants ADF au Mont Royo, mont qu'ils tiennent depuis 3 ans. L'action, bien coordonnée, a commencé par une attaque d'hélicoptère qui a neutralisé 5 cibles bien identifiées, après quoi la Quick Reaction Force Kenya a procédé à l'élimination des éléments résiduels au mont. La position est dorénavant passée sous contrôle des FARDC. Au total, l'intensification des patrouilles et l'augmentation du nombre des opérations de la force ont permis de réduire les attaques des groupes armés contre des personnes déplacées. Les actions à venir, la MONUSCO en fait poursuivra ses efforts avec détermination pour protéger le peuple de la RDC et lui garantir un environnement sûr et sécurisé conformément à son mandat. Merci de votre aimable attention.
Merci beaucoup. Merci, Major. Je voulais, avant de donner la parole à Bruno Lemarquis, signaler également que 200 agents de police ont conclu leur formation de base à Chikapa, en présence des autorités provinciales et celles de la police nationale congolaise. Cette formation de base sur la police de proximité s'inscrit dans le cadre d'un projet renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités, un projet qui est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et mis en œuvre par l'OIM, le PNUD et ONU Femmes. Sans plus tarder, je donne la parole à notre invité, Bruno Lemarquis.
Merci beaucoup, Mathias.
C'est bon ?
Allez-y. Ok. Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Okapi, bonjour à tous les partenaires de la presse, des médias qui nous suivent, donc qui sont ici. Merci pour l'invitation à cette conférence de presse. C'est ma première conférence de presse puisque je suis tout nouveau dans le pays et c'est un plaisir d'être ici et de vous rencontrer. Je suis arrivé en République démocratique du Congo il y a un peu plus d'un mois maintenant, donc je suis dans une dynamique d'apprentissage, mais surtout je suis dans une période d'écoute, avec des grosses oreilles et une petite bouche. Et pour vous permettre de me situer dans l'équipe des Nations Unies, je vais dire un mot sur le poste que j'occupe et qui était précédemment occupé par une personne avec qui vous avez eu des rencontres régulières, j'imagine, y compris dans cette conférence de presse, David McLachlan Carr, que je veux aussi remarquer, c'est difficile à dire, que je veux remercier aussi pour tout son travail ici, et donc je prends la relève. Donc c'est un poste qu'on appelle trois chapeaux, la blague, on dit toujours trois chapeaux, un salaire, mais donc c'est un poste important, parce qu'il fait le lien entre trois dimensions de notre travail comme Nations Unies. Donc il combine trois fonctions distinctes. La première, c'est celle de représentant spécial adjoint du secrétaire général et donc adjoint de la représentante spéciale de la MONUSCO. Donc j'ai un pied dans la MONUSCO. Ensuite, c'est coordonnateur résident du système des Nations Unies. Ça, c'est tout ce qui touche les problématiques de développement, les objectifs de développement durable et donc la coordination des 23 agences, fonds et programmes des Nations Unies qui opèrent dans le pays, et enfin ses coordonnateurs humanitaires. Et là, c'est un poste qui va au-delà des Nations Unies, puisque l'écosystème humanitaire comprend tous les partenaires humanitaires, y compris les ONG nationales, les ONG internationales. Donc cette combinaison de rôles, ça permet d'avoir une approche intégrée, une approche de pousser pour des approches cohérentes, complémentaires, entre les dimensions de consolidation de la paix, du développement durable et de l'agenda humanitaire. Et avant d'arriver en RDC, j'occupais la même fonction en Haïti. Deux semaines après mon arrivée, je suis allé sur le terrain, parce que c'est important de comprendre, de prendre la température et de comprendre la réalité du terrain. Donc j'ai fait une mission dans la province de l'Ituri, une mission dans la province du Nord Kivu, et déjà deux missions dans la province du Tanganyika, la dernière avec le leadership de la MONUSCO et certaines agences des Nations Unies dans le contexte de la transition de la MONUSCO. Lors de ces visites, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux partenaires et acteurs locaux, les autorités provinciales, les autorités administratives et coutumières, des groupes de jeunes, des groupes de femmes, des groupes de la société civile, des membres du secteur privé, de la FEC, les ONG nationales, les ONG internationales, plusieurs visites dans des sites de déplacés ou bien des communautés d'accueil pour des personnes déplacées dans plusieurs des provinces, et donc des personnes affectées par les violences. Étant nouveau en RDC, ma première impression et mon premier commentaire, c'est de souligner combien je suis impressionné par toutes les opportunités et l'immense potentiel que recèle ce pays, son potentiel humain, notamment sa jeunesse, son potentiel économique énorme, son potentiel en termes de ressources naturelles et de biodiversité. La liste est longue, vous la connaissez mieux que moi, donc c'est un pays très très riche en opportunités. Mais je découvre aussi les multiples défis auxquels le pays fait face, qui se transcrivent notamment par le manque de corrélation entre, d'une part, tout ce potentiel et toutes ces opportunités, et d'autre part, les indicateurs de développement de la RDC. Pour n'en donner qu'un, mais il y en a bien d'autres, le pays se classe 175e sur 189 dans le classement des Nations Unies pour le développement humain. Un autre défi qui concerne également les bailleurs de fonds de la RDC, les partenaires au développement de la RDC, c'est le manque de corrélation entre l'aide au développement et son impact et son efficacité. Et donc ces défis, ça se transcrit également de manière concrète par la persistance des besoins humanitaires dans le pays à cause de l'instabilité, de l'insécurité et des nombreux déficits de développement. Donc des besoins humanitaires qui sont à un niveau très élevé, du fait notamment de la situation sécuritaire dans l'est du pays, et qui fait de la crise humanitaire en RDC l'une des plus complexes du monde et une des plus longues, celle qui a duré le plus longtemps, en anglais on dit protracted crisis, et qui dure depuis des décennies. Dans l'est du pays en particulier, les civils continuent de payer un très lourd tribut à cause des conflits multiformes qui entraîne des déplacements forcés de population. Comme vous le savez, la RDC a le plus grand nombre de personnes déplacées internes sur le continent africain, avec 5,5 millions de personnes déplacées internes. Il y a également des violations du droit international humanitaire et des violations du droit de l'homme dans ce contexte d'insécurité et de déplacement. Ceci entraîne des conséquences négatives en termes de protection, en termes d'accès aux services, éducation, santé, nutrition, etc., sécurité alimentaire, la protection des civils, le rétablissement de la sécurité et la stabilisation sont donc essentiels dans ce contexte et sont en premier ressort de la responsabilité de l'État. Mais les Nations Unies, nous sommes là pour travailler avec l'État en particulier. Donc pour répondre à ces besoins humanitaires et aux besoins des personnes les plus vulnérables, il y a de nombreux défis. Donc c'est les défis que les partenaires humanitaires auxquels ils font face chaque jour, des défis en termes de protection des civils, en termes d'espace humanitaire, en termes d'accès humanitaire à cause des problèmes des situations de sécurité, en termes de financement pour la réponse humanitaire, je vais revenir sur ce point. Les acteurs humanitaires, nationaux, internationaux, dont je salue vraiment l'engagement, et la persistance. Ils sont là pour atténuer les souffrances des personnes qui sont les plus dans le besoin, mais ils doivent également pouvoir faire leur travail et ils ne doivent pas être des cibles. Et vous savez qu'il y a eu trop d'incidents visant les travailleurs humanitaires, y compris récemment. L'aide humanitaire se fait selon un certain nombre de principes, l'humanité, la neutralité, etc. Donc ils travaillent dans ce cadre-là. Ils sont là, ils répondent aux besoins. Ils ne répondent pas aux besoins de certains groupes, ils sont là pour répondre aux besoins. Donc ces incidents sur les travailleurs humanitaires, qui sont assez nombreux, sont vraiment très inquiétants. Par rapport aux besoins et aux besoins de financement, et pour mémoire, le plan de réponse humanitaire qui a été lancé fin février, pour 2022, il vise à apporter une assistance à 8,8 millions de personnes, parmi les plus vulnérables, pour un montant total de 1,88 milliard de dollars. Mais nous sommes dans un contexte international marqué par d'autres crises qui sont peut-être plus haut dans le radar international. Donc c'est vraiment important. L'an dernier, par exemple, le plan de réponse humanitaire, qui était à peu près à 1,9 milliards de dollars, avait été financé à peu près à hauteur d'un tiers, un peu plus d'un tiers. Cette année, vu la multiplication des crises, y compris la crise en Ukraine, ce plaidoyer va être encore plus difficile. Dans les prochaines semaines, conjointement avec le ministre des Affaires sociales et des Affaires humanitaires, j'entreprendrai, donc nous aurons une mission conjointe dans un certain nombre de pays d'Europe, notamment avec un briefing aux États membres des Nations Unies à Genève pour expliquer la situation, faire en sorte que la RDC reste dans le radar notamment des bailleurs de fonds humanitaires et donc faire tout ce plaidoyer. Et donc c'est essentiel de poursuivre ces actions de plaidoyer et les médias ont un rôle important à jouer dans ce cadre-là. Maintenant, la situation humanitaire, que ce soit ici ou ailleurs, elle n'est qu'une indication de la température sur le thermomètre. C'est qu'une indication. Elle est indispensable parce qu'il y a des gens en souffrance, il y a des gens qui sont vraiment face à des situations très très précaires, notamment des femmes et des enfants. Mais l'aide humanitaire, d'une manière générale, n'est pas la solution au problème. C'est juste un symptôme. Donc, il est essentiel de travailler collectivement, donc ça c'est avec mon autre chapeau ou mes autres chapeaux, c'est toujours essentiel de travailler collectivement sur les causes profondes, les causes les plus profondes, les causes structurelles que personnellement j'appelle les nœuds gordiens, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère l'essentiel des symptômes. Je viens juste d'arriver dans le pays, donc je vais essayer de lire et de parler à beaucoup de gens pour voir quels sont les nœuds gordiens au niveau de la RDC, mais intuitivement on peut penser qu'il y a beaucoup lié à la question foncière, beaucoup lié à la question de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles en particulier. Donc ces nœuds gordiens sont souvent la source de tensions, de conflits, d'insécurité et de déficits de développement, et donc c'est important dans les approches de tous les partenaires de trouver le bon équilibre entre le travail sur les symptômes qui comprennent la partie humanitaire, l'appui sécuritaire, etc., mais aussi le travail sur les causes structurelles, puisque si les problèmes ne sont pas résolus, les mêmes symptômes vont continuer à réapparaître. Donc ça sera ma première ligne de conduite, d'essayer d'amener, en tout cas pour les Nations Unies, le plus possible les Nations Unies et ses partenaires nationaux, internationaux, vers la question des causes. La deuxième ligne de conduite qui sera la mienne, c'est de voir dans quelle mesure un appui très organisé, très coordonné et très systématique à certaines politiques publiques de la RDC peut faire avancer le développement, peut faire progresser certains indicateurs par rapport aux objectifs du développement durable et peut faire avancer le développement du pays. Ici comme ailleurs, il y a beaucoup de projets. De projets dans énormément de domaines. Comment faire en sorte que tous ces efforts, tous ces projets soient mis en œuvre de manière très systématique, coordonnée, pour faire en sorte que des politiques publiques, que ce soit autour de l'éducation, de la santé universelle, de la protection sociale, du développement économique, du PDDRCS, etc., avancent de manière systématique et soient financées. Des politiques publiques sans financement ça ne sert pas à grand chose pour faire avancer le développement du pays. Pour les Nations Unies, nous faisons tout ça dans ce qu'on appelle notre cadre, notre plan cadre de coopération entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo qui couvre la période 2020-2024. Et finalement, ce sont ces progrès au niveau de la consolidation de la paix et du développement qui permettent d'avoir cette conversation autour de la transition graduelle et responsable de la MONUSCO, qui j'imagine est régulièrement discutée ici, avec comme prochaine étape le retrait de MONUSCO fin juin 2022 de la province du Tanganyika. Les autorités, les partenaires provinciaux, les agences, fonds et programmes des Nations Unies, tous les partenaires basés au Tanganyika, la MONUSCO, etc., ont identifié les priorités programmatiques qui doivent continuer au-delà du retrait de la MONUSCO, par exemple en termes d'alerte précoce, cohésion sociale, etc., toutes ces choses que la MONUSCO a appuyées pendant des années. Qu'est-ce qui doit continuer et comment les partenaires s'organisent pour que la suite soit assurée. Donc je suis personnellement très impliqué avec ça, puisque ça fait le lien entre la MONUSCO et les agences, fonds et programmes des Nations Unies. Et donc tous les efforts sont faits pour soutenir la continuation des efforts du développement de la province et la consolidation de la paix après le départ de la mission. Et je vous remercie.